Alors, on va changer de sujet pour parler maintenant des difficultés rencontrées par les consommateurs que nous sommes tous. Alors, on va cibler un petit peu quand même certaines difficultés pour parler notamment de la vente liée ordinateur logiciel, des menottes numériques, notamment les DRM, sur les contenus culturels ou autres. Donc, à la fois d'un point de vue, on va dire, usage, etc., et puis aussi d'un point de vue législatif, parce que notamment il y a une loi qui a été votée il y a quelques années déjà, qui finit en I, elle aussi, mais qui est DATSI, DADVSI, droit d'auteur et droit voisin de la société de l'information, qui pénalise notamment le contournement des mesures techniques, qui a posé notamment beaucoup de soucis et qui en continue de poser à nos amis de Vidéoland qui sont ce soir présents. Donc là-dessus, sur la partie donc, consommateurs, les problèmes qu'ils ont, les DRM, la vente liée, et puis la loi DATSI, par exemple, une question simple, est-ce que vous abrogez ou est-ce que vous revoyez un certain nombre de dispositions de cette loi-là? Sur la vente liée ordinateur logiciel, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a un problème? S'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Qui veut commencer? Fred?
Je veux bien répondre sur la vente liée notamment, parce que moi, c'est un sujet que j'avais vu, c'est un des premiers sujets que j'ai vu dans cette thématique, mais il y a plusieurs années. Et là, en regardant un peu, j'ai vu que ça fait 12 ans en fait, que des associations comme Racketiciel se battent là-dessus. Personnellement, je ne suis pas du tout de droite, mais quand j'ai vu que la droite arrivait au pouvoir, enfin vraiment la vraie droite, je me suis dit au moins c'est des libéraux. Et un côté vente liée comme ça, c'est un sujet sur lequel ça peut avancer. Et il y a eu toutes les déclarations, c'était dans le plan numérique 2012. Tout ça s'était indiqué, ça me semblait, je ne voyais pas le problème. Je veux dire, ça ne concerne pas des technologies françaises, on n'a rien à gagner là-dessus. Et pourtant, ce n'est pas passé et on en est toujours au même point. Donc moi, je peux vous faire exactement la réponse qu'avait fait Voynet en 2007. Qui est la réponse de tout le monde, effectivement, quand on rentre chez un marchand d'ordinateurs, il devrait très logiquement y avoir indiqué très clairement le prix de l'ordinateur, le prix des logiciels, qu'on prenne avec ou sans les logiciels. On peut acheter un ordinateur nu. Il y a plein de solutions aujourd'hui pour activer un logiciel qui est préinstallé ou ne pas l'activer. On pourrait avoir plusieurs systèmes d'exploitation à la base. Ça, c'est fait sur les navigateurs. Je ne vois aucune raison, à part des questions de lobbying, pour que la vente liée continue à exister. Et je trouvais que c'était vraiment le minimum, le tout petit sujet qui au moins pouvait avancer. Et voilà, donc on verra à la prochaine alternance. Juste en
prochaine alternance.
L'alternance prochaine. Alternance.
Non, mais juste sur ce point précis de la vente liée, effectivement, c'était un engagement fort de ce gouvernement. Et d'abord. Il y a une question posée. Mais il y avait une question préjudicielle qui a été posée, et donc c'est pas une question préjudicielle, pardon. Enfin, il y a une question qui a été posée à la Commission. La Commission a dit que le principe de vente liée n'impliquait pas abus de position dominante. Donc la France a fait ce qu'elle pouvait faire sous un droit européen, droit de l'Union européenne, et la réponse c'est que les ventes liées, ça n'est pas un abus de position dominante. Quand il y en a eu avec notamment
c'est le finir. C'est ça, vous allez réagir.
Il n'y a pas de, c'est-à-dire que ça n'est pas considéré comme un abus de position dominante d'être dans cette situation-là. Et le gouvernement a posé la question à la Commission européenne. Et d'ailleurs, quand il y a eu le sujet avec Microsoft et Internet Explorer et Firefox, là, il y avait abus de position dominante. Et donc la Commission l'a dit. Donc, bien sûr qu'après, on pourra mener des discussions au niveau européen, mais il ne faut pas dire que ce gouvernement n'a pas agi sur cette question. Il l'a fait, mais il y a eu une réponse qui était négative de la part de la Commission.
Alors, qui veut réagir? Sophie, Fleur?
Moi, je veux bien.
Jeanne, peut-être, parce que je la vois très.
Moi, j'ai l'impression que là, ce recours à la Commission européenne, c'est juste un parapluie, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher au niveau de l'Europe. Dans le Code de la consommation en France, il y a un article qui considère comme une contravention la vente forcée sous forme de vente liée. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher l'Europe. Il faut appliquer le Code de la consommation français, point barre. C'est tout. On ne peut pas obliger les gens à acheter un produit lié à celui qu'ils veulent, mais que celui-là, ils ne le veulent pas. Non, ce n'est pas possible. Et là, pour le coup, il n'y a rien besoin de faire. Il suffit tout simplement de faire appliquer correctement la loi et donc d'envoyer les voilà, mais sauf que ça ne s'appelle plus comme ça, la Direction Générale de la Concurrence. Enfin, en tout cas, l'administration aujourd'hui chargée de l'application des dispositions du Code de la consommation doivent aller effectuer un certain nombre de contrôles. Je pense que les contrevenants devraient pouvoir rentrer dans le rang assez rapidement en voyant qu'il y a quelques contrôles. Je pense que ça pourrait être très rapide, parce que comme le disait Frédéric, il y a des dispositifs logiciels qui sont très très faciles à mettre en œuvre. Je veux dire, que ce soit un abus de position dominante ou la Commission européenne n'est pas forcément la plus rétrograde en la matière, mais je comprends, enfin, puisqu'ils ont déjà condamné Microsoft, mais je comprends même pas comment ils ont pu dire ça, mais bon, je veux dire, il suffit que Microsoft mette des Windows pré-installés mais non activés, et puis surtout, je veux dire, il y aurait beaucoup de consommateurs qui, s'ils avaient le choix entre un ordinateur avec Windows, un ordinateur avec un autre système d'exploitation libre, qui choisiraient le système libre, très clairement. Donc ça, pour le coup, on ne peut pas obliger les vendeurs d'ordinateurs, évidemment, mais on peut faire des incitations. Et de toute façon, il faut punir la vente liée. Il n'y a pas besoin de changer la législation, elle est déjà là.
Fleur Pellerin, vous vouliez réagir aussi ?
En gros, c'est plus sain, quoi. Mais effectivement, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des systèmes d'exploitation libres qui permettent maintenant, y compris de tourner avec, enfin, de faire tourner des logiciels propriétaires. Donc, même si les gens sont attachés à Word et veulent pas changer, veulent avoir Excel, etc., il y a des systèmes d'exploitation autres que Windows qui permettent d'utiliser ces logiciels. Donc, il y a absolument aucune raison de ne pas appliquer la loi, effectivement. Alors, la Cour de cassation, là, son arrêt était très attendu. Darty contre UFC que choisir. N'est pas finalement allé aussi loin qu'on pouvait l'espérer en disant que juste maintenant il faut une information du consommateur sur le prix de la licence du système d'exploitation et des logiciels au moment de l'acte d'achat, mais c'est vrai que ça va pas assez loin et que tous les dispositifs techniques existent aujourd'hui, donc clés d'activation pour permettre de respecter la loi. Donc effectivement, moi je pense qu'il faut avoir une action assez volontariste en ce domaine.
Jeanne, tu veux apporter une précision ou...
Juste une précision rapide. Effectivement, la commission avait eu l'occasion d'en discuter. Effectivement, elle a dit que le fait de vendre simultanément un logiciel et des ordinateurs, c'est pas forcément problématique en soi. Par contre, elle s'est absolument pas prononcée sur ce qui préoccupe finalement l'April et beaucoup d'autres associations, c'est la possibilité d'acheter un ordinateur sans avoir à payer des logiciels, sans que ce soit exigé. Et donc, voilà, faut bien aussi comprendre qu'il y a quand même deux questions et deux enjeux différents à ce niveau-là. Et c'est de pas les mêmes problématiques. Donc c'est important de vraiment voir cette distinction.
Benjamin Lancard.
Enfin, j'ai juste informé ce que je voulais répondre sur la partie comme si le gouvernement, enfin, qu'il y aurait eu une action. Je pense qu'il y a eu action. Je pense qu'il y a eu ce qu'il fallait faire. En revanche, bien sûr qu'il faut augmenter les informations, augmenter les incitations. Mais je pense juste qu'on peut pas s'exonérer et se dire comme ça, ça n'existe pas. Enfin, ce gouvernement n'a pas agi là-dessus ou c'est complètement illégal de faire aujourd'hui de la vente liée. C'est pas le cas, voilà. Donc si d'aventure on appliquait de manière il réfléchit une réglementation qui n'existe pas, bah, au niveau européen, on se ferait taper dessus. Donc, ce n'est pas notre manière d'agir. Je pense que c'est plus intéressant, effectivement, d'augmenter l'information et de faire en sorte que, effectivement, les gens puissent avoir le choix à un moment donné. Autre chose, parce que je vous en avais discuté avec Laure de la Rodière récemment, la question quand on achète un mobile, un smartphone, est-ce qu'on est directement sur un système ou pas ? Moi, il faudrait réfléchir aussi à effectivement voir comment est-ce que techniquement ce serait possible, parce qu'il y a à la fois il y a une tension entre deux idées. D'abord, le fait que les gens veulent tout de suite avoir un système qui marche, enfin un appareil qui fonctionne, et puis d'autre part, effectivement, le fait de pouvoir informer, de pouvoir choisir. C'est vrai que pour le moment, on en est loin, et je pense que là-dessus, ce seraient des réflexions à mener et des groupes de travail à ouvrir très vite là-dessus.
Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est quand même que lors du projet de loi consommation, visiblement, des députés de droite et de gauche étaient d'accord pour dire qu'il y avait vraiment un problème, vu que Laure de la Rodière, Lionel Tardy, Frédéric Massa du côté Parti Socialiste et d'autres sont intervenus sur ce sujet-là. Avant, il y avait déjà Martine Billard qui était intervenue sur un précédent projet de loi consommation. Vous parlez de groupe de travail. Dans le plan France Numérique 2012, il devait y avoir un groupe de travail qui devait travailler justement sur la mise en place d'expérimentations d'optionnalité. Il n'y a jamais eu rien qui n'a été fait. Ah, donc il faut qu'il voit le jour très vite. D'accord. Alors, notons que dans le plan France Numérique 2020, donc, qui a été présenté cette année, il n'y avait plus du tout la question de la vente liée et il n'y avait même plus le mot logiciel libre. Je me permets juste de le dire. Mais peut-être qu'effectivement, lors de la prochaine alternance, ce sujet sera réglé. Vous vouliez intervenir ?
Je voulais juste dire que les entreprises peuvent acheter aujourd'hui des ordinateurs sans système d'exploitation. Donc, on ne voit pas pourquoi les particuliers pourraient
Exactement.
Pas avoir accès à cette offre.
Exactement. Alors, sur la vente liée, on va passer un petit peu au DRM et puis à la célèbre loi DADVSI qu'on a un peu tendance à oublier depuis que l'autre loi en I a été votée. Donc là-dessus, sur les DRM, sur la musique ont pratiquement disparu, mais qui sur la vidéo sont fortement présents, la loi DADVSI, elle est toujours là. Hein, on l'oublie, mais elle est toujours là. Elle est certes pour l'instant pas appliquée, mais on est quand même toujours sur cette menace-là, de cette loi-là. Donc, quelles actions on peut mener concrètement au niveau législatif ou autre ? Qui veut intervenir là-dessus ? Est-ce que le parti promoteur de cette loi veut intervenir ou il laisse la parole d'abord Non, pas du tout. Jean-Baptiste, peut-être. Alors, Jean-Baptiste Raffano. Oui.
La DADVSI, c'est quelque chose qu'on a combattu, enfin, que Nicolas Dupont-Aignan a combattu depuis 2005. C'est un sujet sur lequel il est particulièrement préoccupé. Il faut savoir que Nicolas Dupont-Aignan est quelqu'un qui a appris sur le sujet. Hein. Lui-même n'est pas quelqu'un qui est la génération numérique. Il le reconnaît volontiers. Il n'est pas un geek. Il passe pas ses journées sur ordinateur. Ça serait difficile. Mais même dans son usage, il a un usage très classique de l'ordinateur. Mais en revanche, il a essayé de comprendre. Il était entouré de jeunes, en fait, hein, comme Rodolphe, qui est non, je crois qu'il n'est pas venu, mais comme d'autres jeunes encore, qui l'ont alerté sur le sujet, qui ont sensibilisé à la révolution numérique et qui lui ont permis de comprendre les enjeux avant que la loi des ADVSI arrive et de la combattre. Donc aujourd'hui, effectivement, elle n'a pas été abrogée. Enfin, elle avait été plus ou moins allégée par le Conseil constitutionnel, il me semble. Ou non, c'était la DOPI. C'était la DOPI, pardon. Et bon, le fait est que aujourd'hui, sur la protection des DRM, etc., c'est un sujet qui mérite encore d'être combattu. Mais pour moi, je crois que beaucoup d'acteurs ont compris qu'ils n'avaient plus vraiment intérêt à mettre des DRM partout aussi. Il y a ça aussi qui a quand même évolué.
Non. Sur la musique, je suis d'accord, mais alors sur la vidéo, ils n'ont pas compris. alors, vous, de votre côté, là, qu'est-ce que vous allez faire de cette loi ? Alors, je me tourne vers nos amis à gauche, hein, je vous précise. Qui veut intervenir ? Fred ? Frédéric Nau ?
En un mot, nous, on a proposé clairement dans le programme la suppression de la loi d'AFSI. Voilà.
Et pour le Front de Gauche, pareil. Martine Billard, notre députée, qui n'était pas à l'époque au Front de Gauche, mais chez les Verts, donc c'est logique. Hein, est également beaucoup battue contre DADVSI, donc voilà, c'est très clair. Et puis j'explique même pourquoi. Il n'est pas normal d'acheter un DVD et de ne pas pouvoir le regarder de façon parfaitement légale. De manière générale, on vit dans un monde où on est toujours soupçonné de vouloir être délinquant et que ça, c'est philosophiquement quelque chose auquel le Front de Gauche s'oppose et qu'il combat.
Je crois qu'on est prêt pour avoir un programme de gouvernement commun. Non. Mais oui. Donc, effectivement, pour nous, les mesures techniques de protection sont effectivement une absurdité à la fois juridique et économique. Et surtout, ce que tu disais, c'est-à-dire que ça crée une sorte de présomption de culpabilité de l'utilisateur qui est absolument insupportable. Donc, pour nous, tout ce qui est DRM, négligence pour autrui ou autre concept de juridique de ce type sont plutôt à combattre. Et donc, alors, le truc qui est quand même un peu compliqué, c'est que tout ça dérive quand même d'une directive européenne. Donc, il faudra bien aussi en passer d'abord par une discussion avec nos partenaires européens sur la directive qui est à l'origine de la transposition dans la loi DAV-DSI, mais on est plutôt pour l'abrogation.
D'accord. Alors, vous parlez de cette directive européenne. Ça tombe bien parce que cette directive européenne, donc EUCD, European Union Copyright Directive, a été votée en 2001. Donc là, ce n'était pas un gouvernement de droite qui était en France et qui négocie au niveau européen. C'était Catherine Tasca qui était ministre de la Culture. Alors, Sophie Duvauchel précise 15 gouvernements de gauche sur 25 qui ont voté cette directive. Donc, est-ce que j'entends par là, dans ce que vous dites, en fait, qu'il y a une remise en cause de ce qui a été voté à l'époque et que, notamment, au niveau du Parti Socialiste, il y a une évolution et qui irait même juste... Alors, on va switcher sur la côté international, sur une remise en cause de la directive EUCD et voire même une révision complète des directives actuelles, et incluant, par exemple, notamment IPRED, Intellectual Property Reinforcement, donc la directive sur le renforcement des droits entre guillemets de propriété intellectuelle. Donc là, est-ce que au niveau les partis de gauche qui visiblement ont voté cette directive, pas les Verts, hein, je me souviens, parti social-démocrate, précise Sophie Duvauchel, est-ce que vous allez porter le fer au niveau européen ? Parce qu'effectivement, la plupart des lois en française aujourd'hui descendent de directives européennes. Alors c'est vrai qu'en 2001, on peut peut-être considérer que les gens n'avaient pas forcément compris le danger des DRM, donc on peut peut-être passer sur le fait que c'était en 2001, mais maintenant on est en 2012, donc est-ce qu'il va y avoir une remise en cause de ces directives, à commencer par la directive EUCD ?
C'était déjà dans le programme du PS en 2007, donc je pense qu'il y a effectivement... Il y a quand même pas mal de temps qui s'est écoulé entre 2001 et 2012, donc je pense que l'approche aujourd'hui est totalement différente, c'est-à-dire qu'on est bien conscient qu'un certain nombre de dispositions législatives peuvent entraîner une surveillance généralisée des présomptions de culpabilité qui paraissent un peu compatibles avec les usages qui se sont développés et avec les moyens d'accès à l'information, à la culture qui passent aujourd'hui par Internet. Donc moi, je pense qu'il faut évoluer là-dessus, oui.
Alors, évidemment, j'ai posé la question à Benjamin Lancard, parce que autant EUCD a été voté sous un gouvernement de gauche, mais autant IPRED et ses derniers avatars ont été poussés quand même sous des gouvernements de droite. Donc est-ce qu'on maintient cette logique à la fois effectivement de présomption de culpabilité, répressive, contrôle des usages, ou est-ce qu'on essaye de rééquilibrer les choses en faveur finalement des consommateurs et aussi de l'innovation ?
Non, mais d'abord, sur les DRM, en 2009 avec Adopi, sur la musique, ça a disparu. Donc je pense que c'est quand même une avancée. Et alors après, moi je suis pas désolé, philosophiquement, pour moi je ne considère pas qu'il faille légaliser tous les échanges culturels et donc ne pas...
Je ne parlais absolument
pas
de ça.
Non mais si, parce qu'à partir du moment où on enlève les DRM sur les DVD, ça suppose qu'on puisse donc du coup...
Ça suppose que les gens peuvent lire en fait ce DRM sur l'outil de leur choix, notamment du logiciel libre. Alors, la supposition que vous faites, c'est qu'à partir du moment où ils vont l'utiliser sur un outil de leur choix, ils vont le partager.
C'était quand même un peu
l'enjeu. Vous êtes en train de dire que les gens du logiciel libre sont
Non, sincèrement, non. Mais c'est clair qu'il y a quand même ce sujet. Donc, moi, je dis juste qu'il faut le prendre en compte. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pas envie de dire c'est bon, les DRM, c'est fini. Je pense qu'il y a cette question-là, en plus de simplement l'utilisation du logiciel libre. Voilà. Donc, ensuite, pour le reste,
pas de remise en cause de la loi d'ATSI.
Non.
D'accord.
Et la position de la France, et même sur d'autres sujets qui concernent les libertés publiques et l'idée de ce climat de surveillance, c'est clairement l'idée qu'il n'y a pas, il doit y avoir à chaque fois des passages devant les juges quand il doit y avoir des étapes importantes de surveillance comme des fermetures de sites ou des enquêtes approfondies. Voilà, donc on est sur ça, c'est ça la position de l'UMP.
Est-ce que quelqu'un veut réagir sur la scène ?
Oui, quand même.
Voilà. Frédéric Nau.
Moi, je suis très étonné par ce que tu viens de dire. Parce que moi, si je pousse un tout petit peu ce que tu dis, à ce moment-là, mettons des puces sur tout le monde. Parce qu'on ne sait jamais. Les gens peuvent faire des bêtises. Donc voilà, et on va les repérer sur GPS, savoir s'ils sont bien à leur boulot. C'est étonnant quand même ce que tu dis. On ne sait jamais, les gens pourraient pirater, donc on va mettre des espions partout.
Moi, je voudrais juste rajouter un truc. Hein, c'est quand il y a eu le premier débat sur la loi sur la carte d'identité biométrique. Il y a un député, il me semble PS, qui avait demandé est-ce qu'on pourrait coupler les données biométriques de reconnaissance du visage avec les données des caméras de vidéosurveillance ? Et Claude Guéant a répondu la reconnaissance faciale, c'est pas prévu pour l'instant.
Obligé de caricaturer en permanence, donc voilà. Moi, je non, mais c'est
donc
c'est...
Claude Guéant caricature les positions de l'UMP.
Vous caricaturez ma position, elle est ma position elle est très équilibrée. C'est juste de dire voilà que il y a des DRM et que ils ont disparu sur la question de la musique et que c'est tout à fait. Moi, je comprends votre aspiration sur la question du logiciel libre, mais voilà ce que j'invite à dire et à réfléchir, c'est que la question des DRM, c'est pas juste pour ennuyer le logiciel libre, c'est aussi d'autres préoccupations de droit d'auteur qu'il faut avoir en compte. Et je pense qu'on va en débattre tout à l'heure.
Non, mais en fait, le débat qui concerne le logiciel libre, c'est pas l'existence des DRM, c'est le fait qu'il soit interdit d'essayer de les contourner. Et pas souvent
des usages légitimes, y compris pour des usages légitimes. Légitimes, pas forcément légaux.
Oui, pardon, je sais plus ce que j'ai dit.
Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a une différence entre l'usage légitime et légal.
Ah oui, bien sûr, parce que de vouloir le copier sur les 4 ou 10 ordinateurs de la maison, autres supports, etc., oui, c'est légitime, même si officiellement, c'est pas légal. Mais, monsieur Lancard, vous dites c'est pas uniquement pour embêter le logiciel libre, mais c'est le contraire. C'est pas les DRM qui embêtent le logiciel libre, c'est la loi qui interdit de les contourner. Et qui effectivement ne s'applique que aux développeurs de logiciels libres, puisqu'il n'y a qu'eux qui ont les compétences pour essayer de le faire.
Alors, une dernière intervention de Fleur Pellerin sur ce sujet, et on peut prendre une question de la salle.
Je pense qu'il y a aussi derrière ça un sujet de concurrence, c'est-à-dire que effectivement les DRM servent surtout à rendre les utilisateurs captifs d'un certain nombre de matériel pour la lecture des formats de fichiers. Donc, ça complète un peu ce qui a été dit, mais je pense que c'est pas uniquement tourner contre les utilisateurs. C'est tourner contre les utilisateurs, c'est pour les rendre captifs de matériel qui permettent de lire ou de logiciels qui permettent de lire des formats de fichiers, quoi. Donc, voilà.
Alors on va prendre deux questions de la salle. Alors deux personnes qui sont effectivement concernées au premier chef. Donc on va commencer par Jean-Baptiste Kemps de Vidéolan et ensuite Benjamin, ex-stop DRM.
Jean-Baptiste. Bonjour. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis président de Videolan. Pour ceux qui ne connaissent pas, Videolan, c'est l'éditeur du logiciel français le plus utilisé au monde. On a tendance à l'oublier, qui est un logiciel libre. Ça s'appelle VLC, c'est un petit truc avec un cône. Vous avez même vu des pubs. Alors, je voudrais une première remarque à Monsieur Lancard. Je trouve ça génial que la Commission européenne, et comme vous l'avez fait remarquer, nous aide Firefox et, à travailler sur la concurrence avec le ballot de screen pour les browsers. Pourquoi ça n'a pas été fait pour Windows Media Player et VLC ? Donc déjà, ça, c'est une première remarque. J'ai une autre remarque à Sophie. Il est légal de lire des DVD, mais par contre, c'est que sur les DVD. Ça ne s'applique pas aux autres DRM. Toujours pour introduire ma question à Monsieur Lancard, je vous rappellerai qu'il n'y a aucune, DRM à ce jour qui n'a pas été brisée. Alors, je recommence. Il n'y a aucune DRM à ce jour qui n'a pas été brisée. Je connais plein de gens qui font du reverse engineering, j'en fais beaucoup. Les DRM, ça n'empêche pas les utilisateurs. Ça n'empêche pas les pirates. Ça n'empêche que les utilisateurs qui veulent acheter leurs choses. Alors moi, ma question, elle est, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour lire les Blu-ray qui ne rentrent pas dans les décisions de justice qui ont été rendues actuellement sur mon système Linux ou même Windows d'ancienne version ou même d'autres systèmes? Par exemple, macOS 10, c'est rien, c'est juste 15% des utilisateurs. Comment je lis de façon légale en France mes Blu-ray là-dessus?
Donc Benjamin Lancard, est-ce que tu peux passer le micro à l'autre Benjamin? Allez-y.
Oui. Donc,
je vais peut-être compléter. Non, mais moi, je suis. Que ça s'enchaîne et c'est à la limite, ça permettra de faire une double réponse d'un coup si ça vous va. C'était de la même façon une question sur l'efficacité en fait, de manière générale, parce qu'effectivement, du DRM à la limite, je veux bien peut-être imaginer le comprendre. Derrière, il y a effectivement essayer de faire en sorte qu'on contrôle ce que vont faire les usagers. Bon, c'est une philosophie qui, à mon avis, n'est pas du tout partagée par qui que ce soit ici. Presque, mais de manière générale, effectivement, on peut comprendre l'idée. Mais en pratique, effectivement, ce qu'il disait, c'est qu'il n'y a pas d'efficacité dans la mesure où personne n'a jamais été empêché de copier les DVD. Les DVD, ils sont tous copiés sur le net, et c'est des DVD qui ont été copiés à partir de la DRM. Par contre, en pratique, en termes d'efficacité, la DATSI, donc je reviens sur pourquoi est-ce qu'on l'annulerait pas, dans la mesure où, en pratique, je connais des gens dans cette salle, il y en a même un qui est président d'une association qui organise la soirée, qui s'est dénoncé, il est allé voir la police. Il leur a dit, regardez, j'ai lu un DVD sous Linux, et regardez, j'ai copié tel DRM, et j'ai montré...
Il aurait dit sous GNU Linux.
Sous GNU Linux, pardon. Et il y en a un autre qui a dit, regardez, j'ai un logiciel qui permet de contourner le DRM, et je l'ai republié, et il y a toujours le site internet qui est en ligne, avec l'EPV de la justice, qui a dit que elle ne savait pas quoi faire.
Donc deux questions pour vous, Benjamin.
Moi, je suis pas du tout l'avocat des. J'ai pas dû être très clair dans ma réponse. Je suis pas du tout l'avocat des DRM pour emmerder le logiciel libre ou de cause à effet. Enfin, mais en tout cas, moi, je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant que la France repose la question sur la question de Windows Media Player et de VLC. Voilà. Donc mais si, pourquoi pas? Si. Non, mais moi, parce que ça pourrait permettre aussi de résoudre le sujet. Ensuite, si à un moment donné, au niveau européen, il y a un consensus pour que le sujet de la directive de 2001 puisse évoluer, pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est juste que il faut bien comprendre que ça dépasse l'enjeu. Il y a aussi l'enjeu du droit d'auteur et comme le disait Fleur, de la concurrence.
Alors, avant de changer de sujet, ce qui serait peut-être au moins minimum intéressant, si par hasard, c'est à nouveau le président sortant qui est réélu, c'est qu'à minimum, il demande au Parlement, en tout cas que les parlementaires, publient enfin le rapport d'impact de la fameuse loi DATSI, c'est l'article 52. Ils avaient, je crois, un an et demi après la publication pour le faire. Ce serait bien qu'on ait ce rapport d'impact qui, intuitivement, montrerait effectivement que ça ne sert à rien, mais que ça met un certain nombre de personnes, développeurs, utilisateurs, dans une situation juridique difficile, inconfortable. Donc au moins qu'il y aurait ce rapport d'impact. Là-dessus, c'est faisable.
C'est la loi, de toute façon.
Ah oui, enfin... Et à la limite, on peut aussi se demander quelque part, finalement, l'ADOPI a repris les prérogatives de l'autorité des régulations des mesures techniques, notamment donc sur l'interopérabilité des DRM. Or, cette autorité avait, lors de sa disparition, enfin, de son dernier bilan d'activité, indiqué qu'elle ne servait en gros à rien, qu'elle n'avait jamais été saisie parce que c'est en gros très compliqué. Quand on constate effectivement les conditions de saisie de l'ADOPI sur cette partie-là, En gros, on n'y comprend rien parce que ce n'est pas vraiment précisé. Quand on parle aux gens de la DOPI, on a l'impression qu'ils ne savent pas ce que c'est parce qu'ils ont découvert ça après. Donc concrètement, là aussi, il y a une évolution à faire sur cette partie-là. Si vous n'abrogez pas la loi, c'est qu'au moins donner des compétences peut-être à la DOPI sur ce sujet-là.
Je ne bosse pas à la DOPI, hein, donc d'accord. Je ne vais pas défendre les gens de la DOPI, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Je ne sais pas si c'est dans les labs d'Adopi, ce thème-là.
Non, c'est dans la loi. C'est,
non, non, bien
c'est...
sûr, mais outre le caractère de saisine, est-ce que ça, on peut pas rajouter un lab justement d'Adopi là-dessus? C'est une manière aussi de traiter le sujet pour qu'Adopi puisse s'en saisir et que Frédéric...
Ou de ne pas le traiter, mais bon, oui.
C'est pas mon point de vue.
Bon, il est intervenu.
Et comme vous l'entendez. Enfin, voilà.
Bon, on va pas trop quitter de toute façon le sujet quand même du droit d'auteur, parce que dans le point suivant, on va en parler.